Post Instagram numéro 699. Du compte, c'est pas marqué dans les livres. Qu'est-ce qu'un livre? Un assemblage de feuilles? Des mots imprimés et une jolie photo sur la couverture? Des mondes à explorer? Un foyer retrouvé ou une maison hantée? Les mots d'un autre? Ses sentiments nus? Ses pensées les plus intimes? Un scénario sans queue ni tête, juste bon à caler une armoire? Je ne sais pas ce que sont vraiment les livres, mais je crois que les livres peuvent tuer. Chapitre 1. Lucie. C'est la première fois que Lucie voit Toulouse, et elle est profondément déçue. Les couleurs de celle qu'on surnomme la ville rose n'ont rien de la teinte annoncée et tant fantasmée par la jeune femme. Non qu'elle se soit imaginée débarquer au pays de Barbie, mais elle s'était fait une idée des rues, des places et des avenues qui n'ont rien à voir avec la réalité. Aucune similitude avec les barbes à papa ou les flamands. Ni avec cette mèche, teintée d'un fuchsia vif et provoquant, juste là sur sa frange, qui jure avec la blondeur de sa chevelure. Une promesse faite à elle-même. Un point d'exclamation dans une vie trop bien rangée. Mais également un marqueur qui fait partie d'elle comme n'importe quelle autre partie de son corps. Durant le trajet depuis l'aéroport, malgré la pluie battante et le gris du ciel qui s'accorde parfaitement à celui de son cœur, elle retrouve un peu d'optimisme en approchant du centre de l'agglomération. Évidemment, la gare aérienne est éloignée du cœur de ville et n'a rien à voir avec ce que Toulouse a à offrir. Lucie est là pour ses études. Comme sa sœur avant elle, elle veut apprendre les sciences politiques, réaliser un parcours universitaire brillant et devenir quelqu'un. Vaste programme, plein d'ambition, qui fait rougir son père de fierté lorsqu'il présente à qui veut bien l'entendre ce plan sans faille pour l'avenir de sa fille. Du haut de ses 19 ans, elle sort d'une année de prépa qui a laminé le peu d'insouciance qui lui restait. Habituée à squatter les hauts des classements scolaires durant ses années de lycée, voilà qu'elle s'est vue décrocher péniblement la moyenne, ayant eu les plus grandes peines du monde à sortir du lot dans ses classes d'excellence. Sa première note en mathématiques l'a marquée au fer rouge, un 2,4 sur 20. Elle qui n'avait jamais eu de note en dessous de la moyenne jusqu'au bac. Tous les 15 jours, les professeurs établissaient un palmarès des élèves de la prépa, et Lucie se retrouvait immanquablement dans les profondeurs du classement, malgré tous ses efforts. Elle en a passé des heures à bosser ses fameuses colles. L'exercice l'a traumatisée tant elle n'était pas à l'aise à l'oral et trouvait toujours les autres étudiants tellement plus brillants. Lucie s'est rendue à l'évidence. Elle n'a rien d'exceptionnel. Et le monde est plein de jeunes loups aux dents longues. Une fois la pilule avalée, loin de se décourager, elle a persisté et passé les concours d'entrée dans plusieurs villes de France. Les places sont chères, avec peu d'élus à l'arrivée, mais Lucie voulait absolument y croire. Chaque fois qu'elle débarquait dans une ville inconnue, elle s'imaginait la vie qu'elle pourrait y mener. Même si elle restait trop peu de temps pour se faire une véritable idée des lieux, elle repartait aussitôt après les écrits. Et voilà qu'elle fait de même à Toulouse. Dans le tram, le nez collé à la vitre, son sac de voyage vissé à l'épaule, elle dévore des yeux ce qui s'offre à elle, avide de découvrir ces menus détails qui font apprécier ou pas un endroit. Une fois dans le centre, elle suit scrupuleusement les recommandations de son père qui a noté pour elle sur une feuille de papier de son écriture appliquée les étapes de son périple pour rejoindre le petit hôtel où elle passera sa seule et unique nuit toulousaine. Ce précieux plan est pour elle comme une carte au trésor, d'autant plus qu'elle ne possède pas de smartphone avec lequel se guider à travers les rues inconnues. Non, son pauvre téléphone est d'une simplicité effroyable pour une fille de son âge. Il sert simplement à téléphoner. Lucie passe donc les écrits, puis le lendemain, retraverse la France dans l'autre sens, reléguant dans un coin de son esprit ce qu'elle a entreaperçu de Toulouse. Elle a fait le deuil de la couleur rose, qu'elle n'a vue nulle part dans ce drôle d'endroit qui porte si mal son nom. Les fameuses briques oscillent plutôt entre l'orange et le rouge, et ne sont finalement pas si différentes de celles de l'endroit où Lucie a grandi, aux antipodes de là, dans le nord de la France. Toulouse, cette traîtresse, n'est pas du tout le top 3 des villes où Lucie aimerait avoir le concours. Évidemment, avec cette douce ironie dont seule la vie a le secret, elle ne l'obtient qu'à cet endroit. Et d'un cheveu de surcroît. Toulouse sera donc sa seule option. Mise devant le fait accompli, la jeune femme oublie bien vite sa déception initiale qui laisse rapidement place à une certaine excitation, qu'elle s'empresse de dissimuler sous cet habituel air maussade qu'elle maîtrise à la perfection. Elle est d'un naturel peu bavard, et ces dernières années, son aversion pour tisser des liens avec qui que ce soit l'a tenue dans une solitude qui lui convient parfaitement. Pour la première fois, elle va vivre seule, dans une des plus grandes villes de France. C'est à la fois vertigineux et effrayant, mais cela lui provoque une montée d'adrénaline bien loin d'être désagréable. Là-bas, son père ne sera plus derrière elle pour la surprotéger comme il l'a toujours fait. Là-bas, elle sera loin de Marie-Rose, sa très chère belle-mère. Là-bas, elle sera seule à faire les bons ou les mauvais choix, et elle ne pourra s'en prendre à personne d'autre qu'elle-même. Le jour de son départ, elle laissera sur le quai de la gare la petite fille et l'adolescente qu'elle a pu être. À quelques minutes du démarrage du train, une bonne partie de la famille est là. Ils ont tenu à venir lui dire au revoir. Si elle a eu beau leur répéter que c'est un peu ridicule et qu'elle ne part pas pour toujours, cela lui fait chaud au cœur. Ce qu'elle ne montre pas, évidemment. Lucie ne sait tout bonnement plus exprimer sa joie. Comme si quelque chose s'était détraqué en elle. Elle a parfois le sentiment d'être une sorte de poupée déglinguée dont le cœur n'arrive plus à battre correctement. Lucie est une dure à cuire. C'est ce que tout le monde a fini par croire, et il est hors de question de les détromper. Car ces êtres qui la connaissent depuis qu'elle a poussé son premier cri sont tous là, malgré le fossé qui sépare la plupart d'entre eux. Le divorce de ses parents a laissé des traces. Pour preuve, les deux groupes bien distincts qui se sont naturellement formés sur le quai de la gare. D'un côté, son père, ému aux larmes, hésitant entre la fierté et une forme de désespoir. Marie-Rose, sa nouvelle épouse accrochée à son bras et qui ne fait rien pour dissimuler l'ennui qu'elle éprouve à se trouver là. De l'autre, la famille de sa mère, elle qui brille par son absence. Tout cela comme pour tenter de rattraper l'irréparable. Lucie n'a même pas une pensée pour elle. Elle a toujours su qu'elle ne ferait pas le déplacement. Son père a glissé les mains dans ses poches et fait les 100 pas pendant que Lucie étreint ses oncles, tantes et grands-parents. Une douleur à vif, à laquelle Lucie ne veut pas penser ce jour-là sous peine de ne pas pouvoir monter dans le train, plane sur cette famille brisée en deux. Elle grimpe dans le wagon, trouve rapidement sa place puis s'empresse de baisser le rideau sans demander leur avis à ses voisins de trajet, pour ne pas avoir à contempler le petit attroupement aux mines tristes avec son père en tête de cortège, une main sur l'épaule de sa grand-mère, Mémère. Elle ne veut pas voir le visage de son papa adoré et son air complètement perdu, sans sa fille à portée de regard. Si, quelques heures plus tard, elle regrettera de ne pas avoir emporté avec elle une dernière image de ceux qui l'aiment de tout leur cœur, elle sait qu'elle pourrait renoncer en cet instant.